Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. Donc ce soir, on va accueillir. Vous m'entendez? Ça va mieux là? Donc on va accueillir William Acker autour de son ouvrage Où sont les gens du voyage, qui a été publié aux éditions du Commun. Merci d'être là. Ce soir, il y a aussi Benjamin qui est là avec l'expo photo dont il va parler un petit peu.
Bonsoir, je m'appelle William, j'ai 30 ans. Voilà. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous me connaissent un peu, m'ont déjà vu dans les médias ou ailleurs. Mais en tout cas, voilà, je viens vous présenter mon livre ce soir. Donc je suis accompagné de Benjamin, en fait, que je suis très content d'accueillir. Non, c'est vous qui m'accueillez, mais je suis très content qu'il soit là en tout cas, parce que ça fait un petit moment qu'on se suit sur les réseaux et que je suis son travail de photographe ici sur l'aire toulousaine. Et peut-être avant de présenter l'ouvrage, j'aimerais bien qu'il vous parle un petit peu de... Enfin, si tu veux bien commencer, pour parler un petit peu de ces situations que tu exposes et des gens notamment, et peut-être aussi parler, je crois qu'il y avait une histoire de vente de photos. Voilà.
Bonsoir tout le monde. Moi c'est Ben. Vous pouvez me retrouver à Ben Hardcore sur Internet. Et voilà. Benjamin, et je vais vous présenter un peu la situation, cette situation annexe de ce que peut vous présenter, va vous présenter William, c'est-à-dire que c'est une famille serbe, rome, donc c'est une spécificité encore en plus dans sa, parmi les autres familles qu'il peut y avoir ou parmi les... Voilà, tu expliqueras un peu de quoi je parlais. Et c'est une famille que j'ai rencontrée en périphérie de Toulouse, avec le travail que je fais avec le réseau Éducation sans frontières, où on accompagne des familles dont les enfants sont scolarisés et sont sans papier. Cette famille-là est sans papier, mais de fait d'être serbe, je ne sais pas pourquoi, de ne pas connaître son pays, de n'avoir jamais mis les pieds dans son pays, ils sont... de fait, on va dire apatride, mais qui n'est pas reconnu, mais ils ne sont pas non plus expulsés. Donc voilà, c'est un gros fouillis et tout le monde s'en fout. Et voilà, on ne veut pas, juste pas d'eux, c'est tout. Et voilà, cette famille-là était squattée plus ou moins légalement par par le propriétaire, une maison. Quand le propriétaire est décédé, eh ben, les enfants, ils ont voulu récupérer la maison, donc ils ont fait expulser cette famille. La famille s'est retrouvée sur la route avec une caravane et sans savoir où aller, ils ont trouvé une aire d'accueil de gens du voyage, parfait, à leur destination, sauf que cette aire était fermée, était abandonnée depuis plusieurs années, et donc ils se sont trouvés à squatter une aire d'accueil de gens du voyage qui leur étaient logiquement destinés. Et donc voilà, c'est précarité dans la précarité. Et voilà, donc ils ont essayé de construire leur quotidien. Ils ont reçu ensuite, au bout de quelques temps, la police savait très bien, puisqu'ils les ont accompagnés jusqu'à cette aire d'accueil. savaient très bien où ils étaient. Et puis quelques mois après, ils ont reçu un avis d'expulsion parce que c'était pas conforme pour les accueillir. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, mais voilà. C'est encore un des points de l'absurdité de la chose, du fait que c'est censé être aussi, encore une fois, pour eux, mais ça ne l'est pas, et puis on ne veut pas d'eux. Et puis voilà, donc on leur a demandé de partir. Et ce matin même, ils ont été expulsés de cette aire pour aller nulle part, en fait, parce qu'ils ne savent pas où aller. Sinon, ils ne seraient pas là, tout simplement. Et voilà. Et photo un peu de leur situation, de leur quotidien, du fait que jusqu'au jour, jusqu'à ce matin, ils étaient encore en train d'essayer de... Ils vivent le jour et ils étaient en train encore d'arranger pour construire leur quotidien sur ce lieu. Donc voilà. Avec des associations, on a trouvé pour quelques temps, quelques jours, de quoi les loger un temps. Mais voilà. Ce n'est pas sur... C'est sur une aire d'accueil, mais pas ouverte. Et, voilà. Je pense que tu as aussi parlé de cette situation, du fait que les aires d'accueil ne sont pas disponibles.
On va en parler.
Alors moi, je vais parler debout, hein. Comme ça je vous vois un petit peu, c'est mieux. Les présentations sont faites. J'ai commencé à travailler sur la question il y a un petit bout de temps. En fait, moi, quand j'étais enfant, j'habitais temporairement des fois dans ces lieux. Plus généralement, j'habitais dans des lieux réservés aux gens du voyage, des terrains privés notamment, et une rue en particulier dans une ville où on n'était que entre nous. Donc voilà, donc j'ai toujours connu ces lieux en fait. J'ai toujours connu les caractéristiques de leur localisation qui en fait sont majoritairement à l'écart et polluées, mais sans jamais le réfléchir. Voilà. Et j'ai rencontré une chercheuse qui s'appelle Lise Foino. Et qui travaillait sur cette question, j'ai rencontré en 2018, et c'est elle qui m'a vraiment politisé sur le sujet, en tout cas qui m'a montré que c'était un sujet politique et que c'était un sujet qui était loin d'être anodin en fait. J'avais conscience que c'était loin d'être anodin, mais de là à le réfléchir, c'est toujours une autre chose. On réfléchit rarement à la situation dans laquelle on se trouve. Enfin, en tout cas, j'avais jamais réfléchi à ma propre situation, et surtout à l'âge de 18 ans, j'étais parti en fait. Donc j'avais laissé un peu ça derrière moi. Sauf que depuis quelques années, sur les réseaux, etc., j'essayais de sensibiliser un petit peu sur la question des droits des gens du voyage. Parce que c'est une question qui est, à mon sens, essentielle. Et qui se rapporte beaucoup aussi à des questions mémorielles et d'histoire. Donc je parlais des droits et puis je parlais aussi un peu des trajectoires familiales, notamment pendant la Seconde Guerre, l'internement des nomades, etc. Et j'ai rencontré Lise à ce moment-là et on a commencé à, entre guillemets, échanger sur le sujet, et Lubrizol est arrivé. Et Lubrizol, en fait, c'est donc une usine Seveso qui est située à côté de Rouen, qui est une usine de produits chimiques qui explose le 26 septembre 2019, et au pied de laquelle il y avait un site, une aire d'accueil, encore une fois. Alors, je dis encore une fois parce que l'année d'avant, en 2018, il y avait un site dans les Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye, qui est un SIAP, en fait, c'est un centre de traitement des eaux lourdes, qui est considéré comme un des SIAP les plus dangereux de France, qui avait aussi pris feu, et au pied duquel il y avait aussi une aire d'accueil. Par ailleurs, Lise dont je vais parler tout à l'heure, avait travaillé sur un cas précis à Marseille, donc l'aire de Saint-Menet, qui elle aussi est située juste devant un site Seveso seuil haut. Et donc on a vraiment cette récurrence-là, et quand le matin j'allume ma télé et j'entends site Seveso a explosé, tout de suite le premier réflexe ça a été de regarder s'il y avait une aire, il y avait bien une aire, encore une fois. Donc on est rentré en contact avec les habitants de l'aire d'accueil de Petit-Quevilly, c'est le nom de la ville qui était juste à côté de Lubrizol, et on a commencé par aller voir, leur demander comment ça s'était passé. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on les a empêchés d'évacuer, donc ils sont restés dans les fumées pendant 3 jours. On leur a interdit de sortir les caravanes, etc., pour des questions d'ordre public, mais en même temps, on leur a pas donné la possibilité de se confiner, par exemple, dans un local, on leur a pas donné de masque, on leur a pas donné... Donc quand on arrivait, en fait, les gens étaient assez mal en point, il y avait des problèmes pulmonaires, des problèmes de peau, les personnels médicaux, ne souhaitaient plus aller sur l'air parce qu'ils avaient peur en fait, des expositions chimiques. Donc on s'est retrouvé avec 60, près de 70 personnes vraiment paniquées, en plus traumatisées par l'explosion qui avait été extrêmement violente, et une situation sanitaire assez catastrophique. Personne n'est venu les voir. Quand je dis personne, je mens, parce qu'en fait, le dimanche, donc 3 jours après, il y a quand même le gestionnaire de l'air qui est venu leur réclamer le loyer. Donc voilà. Donc on est quand même venu les voir. Bon. Le lundi, on a publié une tribune dans Libération pour dénoncer à la fois cette situation et aussi l'espèce de situation systémique en fait, des aires d'accueil, de localisation des aires d'accueil en France qui pose problème. Et le lundi soir, j'apprends qu'un haut fonctionnaire de la délégation interministérielle du logement, la DIAL, nous traite de démagos, dit qu'on ment parce qu'on n'a pas de chiffres. Et parce qu'on est capable de citer aucun chiffre concret sur la situation de la localisation des aires d'accueil. Et depuis ce soir-là, j'ai décidé de le contredire et de lancer un recensement, en fait, département par département, de l'ensemble de ces lieux d'accueil, dits d'accueil. Et donc ça m'a pris à peu près 1 an et demi. C'était très con. J'ai pris Google Maps, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé... par regarder les villes par département qui étaient censés avoir une aire d'accueil. Et ensuite, pour chaque ville, bah, je fouillais comme ça. Donc évidemment, je n'ai pas fait ça pour chaque ville, parce que sinon, c'est très long. Mais j'ai croisé beaucoup de sources, des sources de la presse locale, beaucoup de pétitions anti-aire d'accueil, ça m'aide beaucoup, ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un projet d'aire d'accueil, il y a des riverains qui font une pétition contre l'aire d'accueil, et ils donnent beaucoup de détails dedans. Donc j'ai pu localiser énormément d'aire d'accueil grâce à leur rejet, en fait, quelque part. Voilà, j'ai croisé énormément de sources. Ça m'a pris 1 an et demi pour localiser ces 1358 sites. J'en ai oublié une dizaine. Non, je tiens à le préciser quand même. Enfin, depuis, hein, peut-être plus, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a signalé depuis. Et je dois dire que je m'attendais à des chiffres assez effarants, mais en fait, j'étais un peu loin du compte, parce qu'il y a carrément des départements entiers où en fait, il n'y a que le choix de vivre dans une déchetterie. Il y a des départements entiers où il y a 3 aires pour 1,5 million d'habitants. Donc en gros, le département est interdit aux gens du voyage. Il y en a d'autres où on vit au pied d'une centrale nucléaire, on vit dans une centrale électrique, on vit dans une station d'épuration. Et puis en fait, petit à petit, en médiatisant cette démarche sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a eu des médias qui s'en sont un peu emparés. Et j'ai fait une petite capsule vidéo sur Arte. Et là, en fait, le lendemain ou le soir même que ça a été diffusé, j'ai eu ma boîte mail inondée, mes messengers complètement saturés de gens qui vivaient sur les airs et qui voulaient parler. Et donc, tout de suite, ça a pris une autre tournure, en fait, ce recensement. C'est que c'est devenu un recensement presque participatif, où en plus d'avoir des éléments très objectifs de localisation, j'avais des gens qui m'expliquaient ce qui concrètement ils vivaient. Et donc ça m'a permis d'affiner un petit peu mon travail, puisque moi en fait ce que je faisais, c'est que je localisais l'air, je regardais tout autour les bâtiments qu'il y avait, en fait, hein, est-ce que c'est une usine, est-ce qu'il y a une autoroute, est-ce qu'il y a la présence d'un site réseau. J'ai fait toute une grille comme ça de critères, de méthodes. Et puis en fait les gens m'ont beaucoup aidé, notamment sur des cas très concrets, par exemple à Concarneau dans le Finistère, j'avais classé l'air... dans une zone industrielle, certes, mais a priori sans trop de nuisances à proximité. Et en fait, juste en face, il y avait une usine de traitement de déchets de poissons que je ne pouvais pas voir du vu du ciel. Hein. Et donc là, concrètement, le témoignage des habitants m'a permis de le savoir. Voilà. Donc ça a été hyper précieux. Et ça reste quand même assez marginal, c'est-à-dire que la majorité des aires d'accueil, je n'ai pas de témoignages sur chaque aire d'accueil. J'ai quelques-unes comme ça, il y a des témoignages. Mais ne serait-ce que vu du ciel... À l'échelle nationale, 51% des aires d'accueil sont à proximité d'une déchetterie, d'une station d'épuration ou d'un site Céveso. C'est 51%, enfin, c'est énorme, quoi. Il y a des départements où c'est vraiment 100% et à tel, voilà, ça illustre vraiment l'adage qu'on entend nous depuis qu'on est enfant. Nos parents disaient, bah, si tu trouves pas l'air, cherche la déchetterie, c'est plus simple. Bah, là, c'est complètement illustré, en fait. Et on avait enfin les chiffres. Voilà. Donc j'ai eu le plaisir en juillet dernier de me faire convoquer chez la défenseur des droits avec ce fameux fonctionnaire qui était là. Et je lui ai remercié de nous avoir traité de démagos et je lui ai offert le bouquin. Maintenant il a les chiffres. Voilà. Et il m'a dit qu'en fait, ils étaient très préoccupés par la localisation. C'était leur priorité. Voilà. Donc voilà un petit peu. Alors, je vais vous parler rapidement de ce que c'est qu'une aire d'accueil, de pourquoi on y vit, de qu'est-ce que c'est qu'un agent du voyage aussi, peut-être. Et pour ça, il faut revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'on ne peut pas comprendre le système d'accueil français aujourd'hui si on ne l'analyse pas dans une perspective historique, en fait. Et dans une perspective historique en France, on se rend compte qu'on a un droit d'exception qui est profondément discriminatoire depuis au moins 1912. En fait, ce qui se passe, c'est que la présence, entre guillemets, de Tziganes en France, elle est ancienne, elle date du 15e, 16e siècle. Je ne suis pas historien non plus, donc je ne m'aventurerai pas dans ces considérations. Mais en tout cas, elle est ancienne. Et la répression de mode de vie nomade est aussi ancienne. Donc on a commencé en France à réprimer le délit de vagabondage au XVIIIe siècle, à mettre en place des passeports de l'intérieur, etc. Ça ne visait pas essentiellement les personnes dites tziganes, bohémiens, romanichels, comme on disait au XIXe siècle. Ça visait aussi toutes les personnes qui pouvaient être en situation de vagabondage, et notamment les personnes en situation de marginalité, aux travailleurs du sexe, etc. etc. Et petit à petit, en fait, la question tzigane est devenue une question. C'est-à-dire qu'il y a eu des migrations à la fin du 19e siècle, puisqu'il y a eu, d'une part, l'abolition de l'esclavage des Roms dans les territoires de Valachie et des anciens territoires de Roumanie. En fait, on a aboli l'esclavage des Roms, donc il y a eu une émigration. Et donc, il y a eu tout un tas de collectifs comme ça, d'origine rome, qui sont arrivés en France. Et ça, plus un contexte de guerre dans les années 1870-1871, ont fait que, petit à petit, la presse s'est focalisée vraiment sur le problème tzigane, le problème bohémien, le problème romanichel. Et l'État s'est emparé de cette question et a commencé à avoir le besoin de recenser ces bohémiens, romanichels et tziganes. Le problème étant que on peut pas, le législateur n'avait pas la volonté de créer une catégorie raciale ou ethnique. Et donc, ils ont créé en 1912, après des premiers recensements fin du 19e siècle, une catégorie de nomades. Alors, un statut de nomade, qui s'inclut dans trois statuts, celui de marchand ambulant et celui de forain. En fait, c'était une loi qui portait sur la réglementation des professions ambulantes, etc. Et dans cette loi, il y avait ce statut de nomade. Alors, si tous les autres étaient plus ou moins considérés comme des gens de bien, c'est-à-dire les marchands ambulants travaillent, sont des commerçants honnêtes, etc. Enfin, c'est écrit dans le corps de la loi. Les nomades, eux, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Ils sont suspects de profession et on leur astreint un régime très particulier qui est en fait un statut héréditaire avec un carnet anthropométrique, avec un passeport de l'intérieur, où on doit tamponner en fait ce carnet à chaque entrée de ville, et une autorisation de stationnement de 2 jours, en règle générale, qui fait que vous étiez de manière perpétuelle obligé de changer de ville, parce qu'au bout de 2 jours, vous deviez quitter la ville, votre visa arrivait à expiration. Dans ce carnet, il y avait déjà, à l'époque, les mesures prophylaxiques, donc il y avait déjà un carnet de vaccination. C'est la première pièce d'identité française, en fait, tout simplement, puisque les Français, à l'époque, n'avaient pas de carte d'identité. Et donc, les nomades, nous sommes les premiers Français. En tout cas, nous sommes les premiers à avoir eu ce carnet anthropométrique qui est tristement célèbre, puisque, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a permis de recenser, créer des listes, et que c'est à partir de ces listes-là qu'on a interné nos grands-parents, déporté certains, etc. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà pendant la Première Guerre mondiale et à chaque fois en situation de guerre, les nomades sont jugés comme potentiellement des renseignements pouvant alimenter les renseignements ennemis, etc., de par leur mobilité. En tout cas, c'est toujours un moment où on profite de ce moment pour essayer de les arrêter, quoi. D'arrêter qui voyagent, en fait, tout simplement. Et on a déjà des premiers internements pendant la Première Guerre mondiale. On a dans la Drôme un camp qui s'appelle Crest, où on interne les romanichels d'Alsace. Voilà. Donc c'est assez méconnu. Et ensuite, la seconde phase d'internement, elle intervient à partir des années 40, où le dernier président du Conseil de la Troisième République décide de prendre un décret le 6 avril 40 pour interdire la circulation des nomades en France. Et Vichy arrive et Vichy transforme ce décret en internement, en mesure d'internement. Donc il y avait à la fois l'assignation à résidence, qui est une assignation assez dramatique puisqu'on vous enferme dans un terrain, des gens crevés de faim en fait. Hein. Et il y avait aussi l'internement dans des camps. Il y en a eu plein des camps, notamment le camp de Salier, ici dans le sud-ouest, il y en a eu quelques-uns comme ça. Et moi, ma famille était internée dans les camps sartois et de Maine-et-Loire, donc Coudrecieux, Mulsanne, et puis mon arrière-grand-mère a fini à Montreuil-Bellay, qui est le plus grand des camps pour nomades, en fait. Donc ces camps, en fait, ils étaient administrés par des Français, et c'est un peu le péché, c'est un peu le point d'achoppement originel dans nos familles, de ressentiment, en fait. Ça vient de là. C'est-à-dire que nous, on nous a toujours parlé de ça, mais... méfiez-vous des gadgets, parce qu'il y a 75 ans en arrière, ils ont enfermé votre grand-mère, ils ont tué son frère, etc. etc. Bon. C'est des conditions qui étaient extrêmement difficiles. Il y a eu aussi des déportations, mais relativement peu. Il y en a eu à peu près 300 personnes qui ont été déportées sous le statut de Zigane, statut racial allemand, puisque en parallèle du statut de nomade en France, il y avait un statut racial dans le Reich, et c'était le statut de Zigeuner, Zigane. Et ce qui était assez intéressant, c'est que le statut de nomade est devenu un statut racial sous Vichy. C'est-à-dire qu'on a commencé à parler de race nomade vraiment à ce moment-là, et que pour traduire en fait, le statut de nomade juridiquement au statut de Zigeuner, ça posait quasiment plus de problèmes. En fait. Et c'est ce qui s'est passé dans le nord de la France, en Belgique, où c'est les gens qui étaient détenteurs de carnets anthropométriques qu'on a déportés dans les convois Z, et qui sont partis, dont la majorité ont été exterminés. Il y a eu aussi des personnes dans les camps de Poitiers. Enfin, bon, bref. En 46, l'été 46, donc bien après la fin de la guerre, on décide de libérer les gens des camps, les nomades. Ils ont été libérés les derniers, même après les collabos. Et on les a libérés non pas parce qu'il y avait une volonté de les libérer, mais simplement parce que juridiquement, on ne pouvait plus les garder. Le statut de guerre étant fini, ben, il n'y a plus de justification. Et à ce moment-là, le ministère de l'Intérieur envoie une note télégrammée à l'ensemble de ses préfets en leur demandant de veiller à profiter des résultats heureux de cet internement et notamment de, sous-entendu, la sédentarisation des Tziganes. Voilà, c'est un peu le moment originel en fait, où la France a vraiment atteint son point... on va dire son point le plus fort dans la sédentarisation des nomades. Et toute la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, toutes les politiques publiques sont tournées vers ça. C'est-à-dire, dans toute l'Europe de l'Ouest, on a sédentarisé en masse. Et en France, on l'a fait, on continue de le faire, et il y a encore beaucoup de boulot. Parce qu'en Allemagne, ils ont quasiment achevé la chose, en Italie aussi, il n'y a presque plus de nomades. En Espagne, eux, ils avaient traditionnellement moins d'itinérance, on va dire. En Belgique, ça s'est beaucoup réduit. Mais en France, voilà, il y a encore ces presque poches de résistance de voyageurs qui continuent de voyager. Et donc, on convoque une commission interministérielle en 1949. Donc, le ministère de l'Intérieur convoque cette commission interministérielle qui va être en charge de relever le peuple, les populations d'origine nomade. Donc là aussi, on continue avec cette qualification un peu raciale, en fait. Donc relevé, dans le rapport, on vous dit qu'il faut en faire des hommes modernes et que pour en faire des hommes modernes, en fait, il faut les sédentariser. Donc les gens qui ont écrit ce rapport font partie des personnes qui ont aussi fondé toutes les associations gens du voyage, d'amis des gens du voyage aujourd'hui. Notamment un conseiller d'État... Monsieur Pierre Jean Lambert, qui a fondé l'ancêtre de ce qui existe aujourd'hui sous le nom de FNASAT, qui est une association nationale de Fédération des Amis de Zigane, alors, qui a bien évolué depuis. Mais voilà, ce monsieur, lui, il avait une vision très particulière, c'est-à-dire que c'était la personne qui était le plus ami des Zigane, entre guillemets. Mais c'était celui qui, quand même, disait que si les gens étaient racistes contre eux, c'était dû à leur comportement, et donc il fallait changer leur comportement. Voilà. Donc il y avait vraiment cette vision-là. Et ce rapport de 49, il est hyper intéressant, parce que dans ses conclusions, donc, il dit tous les problèmes que posent les populations d'origine nomade en France. Et dans ses conclusions, il dresse des recommandations qui sont la loi Besson d'aujourd'hui, c'est-à-dire des aires d'accueil réservées pour les gens du voyage, etc., etc. Donc c'est très 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 intéressant ce rapport parce que en fait il y a une complète continuité entre la Seconde Guerre mondiale, la volonté d'interner un certain nombre de nomades et de les sédentariser, parce qu'il y avait aussi cette volonté-là, et les politiques publiques qui ont été mises en œuvre ensuite. À partir de 69, on change de nom. On ne parle plus de nomades, mais de gens du voyage. On change de nom parce que il est temps de tourner un peu la page des carnets anthropométriques, parce que je n'ai pas précisé, dans les carnets anthropométriques, il y a aussi des mesures du nez, des mesures des coudes. On est en plein dans l'anthropologie raciale. Hein. Donc jusqu'en 69, nos grands-parents avaient ces carnets-là, et il fallait un petit peu tourner la page de cette période. Et donc on change de nom, on ne parle plus de personnes d'origine nomade, mais on parle de gens du voyage. On efface un peu le caractère ethnique, culturel, etc. On ne parle plus de carnet anthropométrique, mais de carnet et de livret de circulation. Donc c'est un peu différent, mais ça revient au même. En fait, il faut toujours pointer tous les 3 ou 4 mois au commissariat. Et surtout, il y a une disposition très particulière dans la loi de 69 sur la domiciliation, qui empêche concrètement les gens du voyage d'accéder au droit de vote, d'accéder à un ensemble de droits, parce qu'en fait, tout simplement, pour avoir une domiciliation, il fallait rester 3 ans sur place sans discontinuité, alors que le reste de la France, c'était 6 mois. Mais nous, c'était 3 ans. Donc, ce qui fait que concrètement, je dis souvent, ma mère a eu sa première possibilité de voter en 2012, enfin après, en 2017 en fait, elle a voté pour la première fois de sa vie, parce que jusqu'alors, on pouvait pas avoir de domiciliation, donc de carte d'électeur. Enfin voilà. Cette loi aussi, elle avait un point assez particulier, c'est qu'il y avait un quota de gens du voyage par ville. Donc, on mettait 3% maximum de gens du voyage par ville avaient le droit de se domicilier dans une même ville. C'était fait en fait pour pas qu'il y ait trop de gens du voyage dans une même ville qui se rassemblent et qui, on va dire, aient une influence politique. En tout cas, c'est comme ça que la droite défendait ce quota. Et donc ça a été supprimé en 2015 sous le gouvernement Hollande. Et la droite LR a tenté de le réintroduire en janvier dernier, ce fameux quota de gitans. Toujours sous l'argument de dire que il risque d'y avoir des fraudes électorales, et ils ont pris l'exemple de Perpignan avec ce maire de RN, je ne sais même plus comment il s'appelle, qui donc aurait fait du clientélisme avec les gitans du centre-ville de Perpignan, etc. Et donc ils ont tenté de réintroduire ce quota qui a évidemment, même la rapporteure du texte qui pourtant a été vraiment anti gens du voyage à fond, n'a pas osé le remettre de le retenir dans la proposition de loi. Mais bon, voilà, c'est des incursions qui reviennent régulièrement. Et en fait, l'ensemble de ce cadre discriminatoire de 1969, il a été partiellement aboli, on va dire, par le Conseil constitutionnel en 2012. Et petit à petit, on a un peu effacé ce statut administratif de gens du voyage qui, en fait, était une forme de statut racial, hein, concrètement. Et la disparition complète de ce statut date de 2019, puisqu'en fait, en 2017, on a enfin supprimé les carnets et livrets de circulation qui nous obligeaient, oui, parce que tous les 3 mois, on devait aller pointer au commissariat. Donc ça, c'était supprimé enfin en 2017 avec une mesure transitoire jusqu'en 2019. Donc on peut dire qu'on est vraiment français depuis 2019, en fait. Voilà, enfin, objectivement, en tout cas. Donc, quand on replace cette perspective historique, ça nous donne vraiment un autre éclairage sur la façon dont les politiques publiques ont été mises en œuvre en France. Et là, c'est là qu'on en vient aux aires d'accueil. Dans les années 70, donc, on commence à avoir les premiers terrains dédiés, qu'on appelle plutôt des terrains désignés. Et avant ça, d'ailleurs, il y avait des expérimentations qui portaient plutôt sur des quartiers. Donc, on faisait des quartiers de gitans. On faisait le hameau de Zigane, par exemple, au Plan de Grâce, il y a un hameau de Zigane. On faisait la cité gitane à Berriac, la cité gitane à Nîmes, il y en avait une aussi. Voilà, il y avait des quartiers qu'on regroupait en fait par classe ethnique, quelque part, les gitans, là. Et pour des raisons tout à fait différentes, soit parce qu'il y avait des populations marginalisées qui vivaient sur des formes de bidonvilles et qu'en fait on regroupait dans un quartier précaire, hein, voilà, comme on savait les faire dans cette époque-là, soit parce qu'il y avait, comme au Plan de Grâce, des intérêts économiques. Par exemple, au Plan de Grâce, donc c'est situé au-dessus de Grâce, dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes, il y a une industrie du parfum, avec Dior, Chanel, qui exploite des champs de jasmin, etc. Et on avait besoin de main-d'œuvre. Et on avait ces Sinti, ce sont des gitans d'origine italienne, qui vivaient là en famille depuis longtemps. On leur a fait un hameau de Zigane, donc un hameau, il n'y a que eux. Et en fait, ça a été une main-d'œuvre qui est encore actuellement utilisée par les industries du parfum. Et pour la petite histoire, en fait, c'était surtout les enfants qui ont travaillé pour les industries du parfum jusqu'au début des années 2000, en fait. Illégalement, évidemment. Parce que, ils avaient des. Enfin, voilà, ils ramassaient les fleurs. Fin. Donc, il y a aussi des intérêts économiques dans ces grands plans de, on va dire, sédentarisation. Et ça continue. Hein. Aujourd'hui, par exemple, la cité gitane de Berriac, elle existe toujours. Et là aussi, on a les premières logiques de localisation, quand même, de terrain pourri. Il faut le dire, puisque la cité gitane de Berriac, par exemple, est située en face d'une centrale électrique aux tensions. Voilà. Aujourd'hui, il y a une grosse problématique de cancer qui a été développée par l'ensemble des personnes qui y vivent. Et Berriac, c'est aussi une des seules villes en France où le maire est gitan, puisqu'il vient de la cité et voilà, il se bat aujourd'hui pour la requalifier et retransformer l'urbanisme de sa ville, mais ce n'est pas évident. Voilà, donc ça, c'est les premiers plans en fait, qui ont continué et qui continuent encore aujourd'hui par la maîtrise d'œuvres urbaines à caractère social, les mousses, je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, bref. Il y en a, par exemple, à Paris, c'est des quartiers de gens du voyage. Il y en a à Strasbourg, il y en a à Villeparisis, etc. C'est des quartiers où on met que des gens du voyage dans des formes d'habitat adaptés, avec une maison et puis à côté, un petit parking pour placer leur caravane. Et ça, disons qu'en fait, on crée un peu des formes de quartiers ségrégés, hein, des formes de ghetto, entre guillemets. Je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais vraiment, ça fait partie d'une tradition urbanistique française de faire ça depuis très longtemps. On sait que c'est à chaque fois un échec, mais on le fait. Donc, dans les années 70-80, on commence à créer des terrains désignés, hein, des terrains qui sont dédiés au passage, donc à, non pas à habiter, mais vraiment dédiés à des personnes qui sont juste de passage. Et donc on les crée, on en crée quelques-uns un peu partout en France. Là aussi, des localisations pourries déjà, dans les déchetteries, etc. Et puis petit à petit, on les rationalise, on crée ce qu'on appelle des aires d'accueil. Loi Besson dans les années 90, qui est très peu respectée. Puis loi Besson 2 en 2000, qui là, oblige les villes de plus de 5000 habitants à avoir une aire d'accueil. En fait, à ce moment-là, on va complètement rationaliser la politique d'accueil qu'on doit mettre entre guillemets, parce que je vais vous expliquer, c'est pas vraiment une politique d'accueil en fait. Déjà, on va requalifier le statut de gens du voyage. On va qualifier enfin qu'est-ce que c'est un gens du voyage. La loi Besson le fait dans son article 1. Elle dit le gens du voyage, c'est la personne qui vit dans une habitation mobile traditionnelle. Et le terme traditionnel, en fait, c'est un héritage en fait. Hein, donc c'est une forme de c'est une façon un peu de classifier racialement sans le dire. Voilà. Donc, objectivement, en pratique, toutes les personnes gens du voyage sont des personnes d'origine, avec des origines. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que vous, si demain vous vendez votre maison, que vous prenez une caravane et que vous voulez être gens du voyage, vous ne le serez pas. Vous n'aurez pas l'obligation de vivre en aire d'accueil. Vous aurez accès au terrain de camping, au terrain de camping-car, etc. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en même temps qu'il y a ces aires d'accueil, il y a une pratique administrative qui fait qu'on sépare les publics en fonction de leur origine. Si par exemple vous avez un camping-car, vous ne pourrez pas accéder aux aires d'accueil, normalement. Et si vous êtes gens du voyage, vous ne pourrez pas accéder aux aires de camping-car, ni aux aires de camping, ni aux campings municipaux. Pendant très longtemps, en fait, les campings municipaux interdisaient dans leur règlement intérieur les gens du voyage. C'était écrit noir sur blanc, sauf que la jurisprudence est passée par là, un peu épuré tout ça. Bon, c'était clairement discriminatoire hein, pour le coup. Et aujourd'hui, ils ont une nouvelle règle, c'est l'interdiction des caravanes double essieu, avec 4 roues. C'est une règle, une sorte de secret d'État, on ne sait pas trop pourquoi. Et à chaque fois, il y a une raison différente. Et bon, la raison, on la connaît tous. Hein. Quand vous allez sur le site de la Fédération française des caravaniers de France, ça existe, vous avez clairement explicité le fait que cette règle en fait, est dédiée à ne pas avoir de gens du voyage dans les campings municipaux. Et que si toutefois, vous n'êtes pas gens du voyage et que vous avez une caravane double essieu, vous leur écrivez, vous faut un papier, vous rentrez dans le terrain. Donc, ouais. C'est vraiment organisé, quoi. Ils organisent vraiment le truc pour avoir une ségrégation complète, en tout cas au niveau des équipements d'accueil public des habitations mobiles. Voilà. Donc on a, et puis c'est très intéressant de comparer les deux types d'équipements, parce que ça aussi, les localisations ne sont pas du tout les mêmes. J'ai fait l'expérience dans le Calvados. Vous avez donc deux fois plus d'ailleurs d'équipements, on va dire, réservés aux non-gens du voyage qu'aux gens du voyage. Les aires de camping-car et les campings municipaux étaient majoritairement situés au bord de la mer et dans les quartiers touristiques ou dans les forêts, enfin des trucs assez agréables. Où le maire, quelques années auparavant, avait refusé un projet d'aire d'accueil à proximité de la ville parce que, vous vous rendez compte, 12 caravanes... proximité à moins de 3 km du centre-ville, vraiment, c'est un gros, grave trouble à l'ordre public quand même. Et 5 ans plus tard, il inaugurait un terrain de camping-car de 50 emplacements dans le centre. Donc voilà, là, ça ne te gênait pas, il n'y avait pas de souci, mais pour l'air d'accueil, c'était pas possible. Donc, globalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette obligation de plus de 5000 habitants n'a pas été respectée. Parce que concrètement, c'est très impopulaire d'avoir une aire d'accueil dans sa ville. Pour un maire, c'est très compliqué de porter ce projet parce qu'on a toujours l'hostilité des personnes, des administrés, quelque part, qui n'en veulent pas. Pour tout un tas de raisons, alors il faut se référer comme ça aux pétitions anti-aire d'accueil. Donc on regarde, hein, les gens ne veulent pas d'une aire parce qu'il y a une raison écologique. Alors ça, quand il y en a une, c'est top. Voilà, si on met l'air, on risque de détruire l'espèce de musaraigne qui est là depuis 600 ans. Si on met une air, on risque d'affaisser les talus, machin. S'il y a une raison écologique, ça sera uniquement celle-là qui sera mise en avant. S'il n'y a pas de raison écologique, on passe à une autre rhétorique. Et là, on est plutôt sur nos maisons vont être dévaluées. Ça, c'est, si on a une aire d'accueil à côté de chez nous, nos maisons ne valent plus rien. Ça, c'est la principale. Et puis ensuite, c'est les cambriolages, la salubrité, l'ordre public, etc., etc. Et parfois, ils s'emballent. Et puis là, c'est Marie-Thérèse en commentaire qui met « c'est saleté de Rome ». Et tout. Donc voilà. Ça, c'est à peu près le type d'argument qu'on a contre les aires d'accueil. Et malheureusement, en fait, hein, un maire, c'est le reflet de ses administrés, se fait élire par eux. Et donc, traîne des pieds. Alors aujourd'hui, ce n'est plus la compétence de la mairie, c'est la compétence de l'intercommunalité. Mais qui sont les élus dans les intercos? Ce sont les maires. Donc voilà. Donc on a les mêmes types de problèmes et les mêmes évitements de l'accueil, je dirais. Voilà. C'est un gros problème parce qu'aujourd'hui, parmi les villes de plus de 5000 habitants, il y en a à peine 70% qui respectent leurs obligations à l'échelle nationale. Donc il y a déjà 30% qui ne respectent pas leurs obligations. Et quand on regarde de plus près les terrains proposés, il y en a une grosse partie déjà d'une qui sont habitées par des gens à l'année. Donc des gens qui se sont sédentarisés dessus. Donc inutilisables pour l'accueil. Et une autre grosse partie qui sont soit fermées administrativement, soit tellement éloignées des centres, tellement polluées qu'elles ne sont pas utilisées, soit très chères parce que on a aussi une stratégie de créer des aires d'accueil très chères pour pas que les gens viennent s'y installer, puisque je ne vous l'ai peut-être pas précisé, mais une aire d'accueil est payante. Et là, on en vient à une autre situation complètement aberrante, c'est que les aires d'accueil sont payantes, donc il faut payer l'équivalent d'une forme de loyer, alors parfois avec des tarifs qui ne sont pas du tout unifiés. Donc parfois, vous allez avoir des tarifs de 50 euros le mois, et puis parfois, vous allez avoir des tarifs de 400 euros le mois. Et vous n'avez pas accès aux APL, parce que les gens du voyage n'ont pas accès aux APL en France, vu que la caravane n'est pas considérée comme un logement. Et vous n'avez pas accès non plus aux tarifs sociaux de l'eau et de l'énergie, en fait, puisque vous n'avez pas accès au chèque énergie, par exemple, et que surtout, en fait, l'énergie est revendue par le prestataire, donc la mairie, qui vous surfacture. Ce qui fait qu'à chaque fois, vous avez le prix de l'eau dans l'air qui est plus cher que votre voisin qui est juste en face, qui est sédentaire. Donc là aussi, ça pose des problèmes. Pourquoi ? Parce que majoritairement, qui on retrouve sur les aires ? On retrouve les gens du voyage qui n'ont pas les moyens d'aller dans des terrains privés. Tous ceux qui ont eu les moyens ont fui les aires. Parce que ce sont des lieux pas vivables, où on vit avec des gens qu'on ne connaît pas. Il faut préciser ça aussi. Hein. On vit à côté de gens qu'on ne connaît pas. Et ce sont des lieux qui sont surveillés, puisqu'il y a un gardien sur chaque aire. Donc il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment de se retrouver enfermés dans une forme de prison, en fait. Par exemple, à Castres, c'est pas très loin d'ici, Castres, non, si je dis pas de bêtises. L'aire d'accueil de Castres, il y a des grillages très hauts, il y a des aires anti-intrusion qui sortent du sol, il y a un gardien 24/24, de la caméra vidéosurveillance. C'est un bunker, c'est une architecture carcérale. Concrètement, hein, c'est une inspiration de Caen, en fait. Et ça, en fait, on le retrouve dans beaucoup d'aires d'accueil. Et le problème, c'est que les gardiens, les gestionnaires, ben, on n'a pas la fine fleur du travailleur social français là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on prend d'anciens militaires, de gros bourrins de l'armée, des mecs qui... D'ailleurs, on le met, hein, quand on les recrute, on écrit, on a des gens qui savent gérer le conflit. Donc on prend les, voilà, on prend les gros bourrins. Et y a aussi une forme de surveillance qui se met en place avec des pratiques qui sont très répréhensibles, puisque la gestion d'une aire peut être est publique par nature, mais peut être déléguée à des sociétés privées. Et début des années 2000, on a eu, avec la nouvelle loi Besson, des sociétés qui ont fait leur apparition spécialisées dans les gens du voyage, qui ont apparu comme ça, et qui étaient en fait des sociétés spécialisées dans la gestion de terrains locatifs à la base. Et donc qui font des pratiques très... qui ont eu parfois des pratiques assez répréhensibles, comme des pratiques de blacklistage, qui consistaient en fait à interdire l'accès à certaines familles, par exemple, qui ne pouvaient pas payer leur emplacement, et ce qui faisait que certaines familles étaient interdites de territoire. Ce qui s'est passé en fait avec la construction des aires d'accueil, c'est qu'on a réduit les possibilités de stationnement en fait en France. À tel point, on les a réduites à tel point que certains territoires, je disais, sont interdits. Par exemple, si je prends le cas des Alpes-Maritimes, il y a 1,5 million d'habitants. Il y a 3 aires d'accueil qui sont pleines à l'année. Donc concrètement, à chaque fois qu'un voyageur va dans les Alpes-Maritimes, il est en situation d'illégalité, ça ne peut pas être autrement en fait. Voilà. Et les 3 aires d'accueil sont à côté de déchetteries. Donc à part celle de Nice, mais elle est dans une zone industrielle. Bon. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a vraiment des zones complètement exclues du stationnement qui ont fait que les gens ne peuvent plus exercer le voyage qu'ils exerçaient avant. Moi, quand j'étais enfant, on était déjà sur la faim, mais... On voyageait en petits groupes, on voyageait à 4, 5, 6 caravanes. Aujourd'hui, c'est plus possible. Si vous faites ça, déjà, vous n'avez jamais une place dans les airs, parce qu'au pire, on vous propose une place ici, une place là. Et parfois, dans certains territoires, vous avez votre mère peut stationner donc, dans l'air X qui est ici, et puis les enfants vont devoir les stationner à 70 km plus loin. Bon, concrètement, ce n'est pas possible, surtout quand ils sont à bas âge. Mais voilà ce qui se passe et l'offre qui est faite, en fait. Et il y a eu une incitation, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les communes ne construisaient pas les aires, et donc on leur a donné un petit os à ronger, on leur a dit si vous construisez les aires et que vous mettez aux normes de vos schémas, vous aurez la possibilité d'expulser les gens en moins de 48 heures. Alors là, ils se sont tous précipités et tout machin, et maintenant c'est l'argument principal, un maire, quand il construit une aire, il dit à ses administrés, voilà, je construis l'aire parce que je vais pouvoir mieux expulser derrière en moins de 48 heures toute installation illégale. Donc en fait, c'est pour ça que je disais que la loi Besson, qui est présentée en tout cas comme une loi de reconnaissance des droits des gens du voyage, de l'accueil, etc. Et en fait, une loi de répression policière. C'est-à-dire que c'est un instrument vraiment pour rationaliser la présence, entre guillemets, de Ziganes sur le territoire français, hors des centres-villes, hors des villes, hors des espaces ruraux aussi, parce que ça, évidemment, les villes de plus de 5000 habitants, vous savez, c'est 4% des communes françaises. Donc 96% des communes françaises, de facto, vous sont interdites. Et évidemment, dans des territoires où vous avez très peu de villes de plus de 5000, notamment les territoires ruraux, vous n'avez le choix que de vivre dans des espaces urbanisés et notamment des zones industrielles. Donc évidemment, ça a eu un fort impact sur le travail. Nos familles vivaient pour certaines du travail dans les espaces ruraux avec des travaux saisonniers, des travaux agricoles, des travaux de vente de marchandises, des travaux de petit artisanat, etc. dans les campagnes. Et quand on a mis en place ce système d'accueil qui n'avait plus accès aux campagnes, bien ça a contribué à une forme de paupérisation, au changement des schémas de voyage, des schémas de vie, des schémas économiques aussi, et une fragilisation de populations qui avaient vécu comme ça de manière depuis des décennies, quoi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on a les populations les plus marginalisées, les plus fragiles, qui vivent sur les aires. Soit elles sont fragiles économiquement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas accès à la propriété, ou alors elles sont fragiles parce qu'elles sont âgées. Il y a beaucoup de personnes âgées sur les aires, ou parce qu'elles sont en situation de handicap. Il y a énormément de personnes en situation de handicap aussi sur les aires. Et ça pose vraiment de gros problèmes, parce qu'à ces gens-là, on ne leur permet pas de voyager sereinement, de pouvoir exercer un métier, etc. Voilà, donc on est vraiment dans une forme de cercle vicieux. De la même façon, le fait que le voyage individuel soit de moins en moins possible, les gens se sont abattus sur un voyage en grand groupe. Vous savez, le chapiteau avec les 300 caravanes autour, vous avez déjà vu ça. Ben, ça, en fait, ça existe depuis les années 50. C'est les premières églises évangéliques américaines sont venus évangéliser en masse les tziganes dans les années 50. Quand je dis tziganes, hein, c'est un terme générique. Voilà, on en reparlera après si vous voulez. Mais ils sont venus évangéliser en masse. Et donc, cette pratique du grand passage a émergé dans les années 50. Et petit à petit, en fait, face au déclin et en tout cas à la possibilité de voyager légalement en petits groupes, on a créé, les voyageurs ont créé des associations de grands passages non confessionnels, entre guillemets. Donc il y a des grands passages religieux et des grands passages qui ne sont pas religieux, mais en fait, le fait d'interdire le voyage en petits groupes, les gens se sont rabattus sur des voyages en grands groupes. Et aujourd'hui, la plupart des voyageurs ne voyagent plus toute l'année. Nous, quand on était enfant, on voyageait toute l'année, mais je disais que c'était la fin parce que très vite, vers l'âge de 5-6 ans, on arrêtait de voyager toute l'année. Et en fait, on voyageait de septembre, on voyageait, pardon, de mai à septembre, et tout le reste de l'année, on était sur place. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont les moyens, ils se mettent dans un terrain et ils voyagent plus que 4-5 mois par an en grand groupe. Et donc là, ça crée d'autres problèmes parce que, évidemment, accueillir 3 caravanes, c'est pas la même chose que d'en accueillir 300. Et donc, évidemment, l'offre de terrain n'est pas le même non plus. Voilà. Donc, en fait, la répression du voyage individuel a créé un cercle vicieux. Et aujourd'hui, on a le choix, concrètement, quand on a un fait social comme le Grand Passage, de l'accepter, de l'accompagner ou de le réprimer. Sauf que nous, nos gouvernements, ils n'ont jamais réussi à choisir. Donc, ils acceptent et puis derrière, ils répriment. Là, typiquement, la nouvelle mesure de répression, c'est l'amende forfaitaire délictuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis septembre, lorsque vous vous stationnez en dehors d'une aire d'accueil, vous avez automatiquement une amende de 500 € par caravane. Avec la signature de l'amende tout de suite, vous ne passez pas devant un juge, le juge parti, etc., c'est le policier. Donc évidemment, les flics, ça faisait juste 70 ans qu'ils attendaient ça. On leur a donné cet outil et là, ça bombarde. Le problème étant que, clairement, c'est un peu la signature d'un arrêt de mort de ce qui restait de voyageurs, parce que quand vous avez des territoires entiers où il n'y a plus aucune place d'accueil, et que dès lors que vous êtes en situation d'inégalité, vous prenez 500 €, concrètement, vous ne voyagez plus, quoi, c'est plus possible. Donc là, on se pose beaucoup de questions, et face un peu à nos angoisses, on va dire, Darmanin a annoncé il y a quoi, quelques jours que allez les préfets, il faut y aller, il faut construire les aires, il faut continuer là, construire les aires, parce que là on a mis les grosses mesures de répression, maintenant il faudrait leur permettre quand même de se stationner légalement, parce que sinon ça la fout mal. Donc évidemment il n'y aura pas grand chose qui bougera, on en est sûr, mais voilà, il y a des mesures de répression qui sont toujours plus inventives, toujours plus fortes, toujours plus voilà, et de l'autre côté des mesures d'accueil qui sont toujours plus réduite, avec un accent qui aujourd'hui n'est plus du tout mis sur l'accueil. Le but aujourd'hui, c'est l'habitat tzigane. Donc, c'est ce qu'on appelle l'habitat adapté. En fait, on a, pendant toutes ces années, je disais, mis les personnes les plus fragilisées économiquement, notamment, se sont fixées sur les aires, ont cessé de voyager, n'ont plus voyagé. On a un certain nombre d'aires d'accueil aujourd'hui qui sont devenues des aires de sédentarisation, où les gens sont installés depuis 10, 15, 20 ans. Et aujourd'hui, il s'agit de reloger ces gens-là. Donc en fait, on a sédentarisé. C'est ce qu'on a fait depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à ça que sert l'accueil aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on regarde, quand on voit les schémas départementaux d'accueil et d'habitat, déjà il y a accueil et habitat, et quand on voit comment ils évoluent, les places d'accueil, elles sont de plus en plus réduites et les places d'habitat sont de plus en plus augmentées. L'idée, c'est que maintenant qu'on a immobilisé les gens, il faut les ancrer, comme si ils n'étaient pas ancrés dans leur territoire. Ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est un mot que l'administration utilise, il faut les ancrer. Faire en sorte qu'ils soient bien, qu'ils se sentent chez eux, peut-être, je ne pense pas que ce soit ça le sens, mais il faut les ancrer et leur créer des conditions d'habitat. Et donc, on a des noms qui sont très bizarres. Par exemple, aujourd'hui, l'administration a un terme pour désigner les gens qui vivent de manière sédentaire, elle dit les gens du voyage sédentaire. Alors pourquoi continue-t-on de les appeler gens du voyage et de l'autre côté dire qu'ils sont sédentaires ou semi-sédentaires ? Voilà, c'est vraiment, on est en plein dans la catégorisation ethnique en fait. On n'arrive pas à s'en dépêtrer concrètement, on n'arrive pas à réfléchir l'accueil de l'habitat mobile en France hors de ce cadre ethnique. On n'arrive pas. Et au lieu de réfléchir à des villes qui soient inclusives des modes de vie mobiles, entre guillemets, qui soient conçues pour accueillir des modes de vie mobiles. Et je parle des choses très simples. On ne parle pas forcément d'avoir une aire d'accueil, Mais un espace avec un robinet et une prise, déjà, ça suffirait dans énormément de petites communes. Enfin, voilà. Mais au lieu de réfléchir l'habitat mobile intégré à la ville, au lieu de réfléchir l'urbanisme en France, eh bien, en fait, on fait de la police, on essaye de tuer le digan chez l'homme. En fait, il y a Piazzere, Leonardo Piazzere, qui est anthropologue, qui essaye de qualifier ce que c'est que l'antidiganisme dans un texte. Et il dit l'antidiganisme, il paraphrase Sartre sur l'antisémitisme, et il dit l'antidiganisme, il y en a deux sortes. Il y a celui qui cherche à tuer l'homme chez le digan, c'est le racisme biologique, c'est celui des nazis, celui qui a exterminé 500 000 à 1 million de digans en Europe, pendant la Seconde Guerre. Et puis, il y a celui de nos démocraties qui cherche à éliminer le digan chez l'homme. Celui qui cherche à sédentariser, celui qui cherche à unifier, à assimiler. On nous ressort souvent ce mot-là, assimiler. Comme si que nous n'étions pas assimilés. Mais... Pour donner un exemple, moi, ma famille, on a des registres qui remontent jusqu'à avant la Révolution française. Et ils voyagent entre quatre villes en Sarthe. Donc, si ces gens-là ne sont pas ancrés dans leur territoire, ben, ils connaissent sur le bout des doigts leur territoire. Et ça, c'est un peu compliqué à réfléchir. Je pense que je vais m'arrêter à la présentation, parce qu'il y a des milliards de choses, et j'aimerais bien prendre vos questions, vos remarques, vos expériences. Il y a encore plein d'autres trucs à découvrir dans le livre, je suppose. Ah, je ne vous ai pas présenté le livre. Quand même. Le livre... j'ai travaillé avec une maison d'édition qui s'appelle Édition du Commun, qui est une maison d'édition rennaise, qui ont la particularité de travailler avec des contrats libres, enfin je comprends rien, mais bon. Ils ont la particularité de travailler avec ce type de contrat, et ils publient gratuitement le livre dès sa sortie. Donc ça, en fait, sur Internet, vous l'avez de manière gratuite, et c'était vraiment une de mes conditions, parce que moi, je ne voulais pas produire un travail qui soit payant. Donc il est payant en format papier, évidemment, mais en format numérique, il est gratuit. Et il... construit de telle manière, c'est-à-dire qu'il y a une partie de texte sur 200 pages, de contexte, de tout ce que je viens de vous raconter. Hein. Et ensuite, il y a une partie rose où on a, département par département, l'ensemble des aires d'accueil avec l'ensemble de leurs caractéristiques, localisation, qu'est-ce qu'il y a autour, etc., etc. Et des pourcentages par département des pollutions, de l'isolement, etc. Ce que je ne vous ai pas dit, je vais terminer par là parce que c'est quand même important. Pourquoi les gens sont situés dans des poubelles en France, c'est pas la volonté de les mettre dans des poubelles. J'ai du mal à y croire. Bon, ça peut être le cas. Hein. Je suis persuadé même que c'est le cas dans certains départements. Mais la première volonté, c'est de les éloigner. Et quand on éloigne, on se retrouve face à des coûts de viabilisation et de raccordement des terrains qui sont exorbitants. C'est-à-dire qu'il faut tirer plus de câbles, faut tirer plus de câbles d'électricité, etc. Viabiliser les terrains, ça coûte très cher. Et donc, on va les rapprocher d'autres équipements qu'on a eux-mêmes éloignés pour d'autres raisons, notamment des raisons de nuisance. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a environ 70% des aires qui sont très éloignées, complètement isolées. Et d'ailleurs, c'est une vraie revendication des élus locaux, hein, d'éloigner ces aires, pour des questions d'ordre public, toujours. Et une cinquantaine de pourcents qui sont pollués. Mais il y a vraiment une corrélation entre cette volonté d'éloigner et la pollution. Voilà. C'est pour ça que je parle de racisme environnemental, mais je pense qu'on en reparlera dans les questions. Ça peut être intéressant de parler de cette notion de racisme environnemental, ou pas d'ailleurs, je suis lancé donc je vais le faire. Je parle de racisme environnemental. Pourquoi je parle de racisme environnemental? C'est une notion, pour faire très schématiquement, qui vient des... milieux militants afro-américains ou afro-descendants, qui démontraient dès les années 80-90 que majoritairement les quartiers dans lesquels ils vivaient étaient des quartiers non seulement ségrégés, mais en plus des quartiers pollués. Et que donc ça avait un impact sur la santé, et eux qualifiaient ça de racisme environnemental, c'est rentré dans les sciences humaines, etc. On a commencé à l'utiliser dans le cas français sur les scandales en fait, environnementaux dans des contextes post-coloniaux. Je pense au chlordécone, je pense à l'exploitation aurifère en Guyane, etc. En gros, ça permet, c'est une notion qui permet simplement d'étudier le lien qui peut exister entre la condition, la perception raciale de personnes et leurs conditions environnementales. Et moi, j'avais beaucoup de mal à le réutiliser dans le contexte européen, simplement parce que pour moi, c'était vraiment une notion qui s'appliquait dans les contextes post-coloniaux. Et c'est une notion qui appartient à une histoire particulière aux États-Unis, et c'est toujours difficile de s'emparer de revendications, de notions qui ont été créées par des militants dans un contexte particulier. C'était utilisé par exemple en Afrique du Sud, où là, on avait vraiment un système racial précis, de ségrégation raciale, avec des townships pollués, etc. Mais en France... Et en fait, le Bureau européen de l'environnement m'a un peu facilité la tâche en 2019 en la réutilisant pour la situation des Roms en Europe de l'Est, où ils ont étudié 50 terrains, 50 quartiers Roms, entre guillemets, qui étaient tous majoritairement ségrégés et pollués. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis posé la question de si on pouvait l'appliquer en France. Et en fait, quand j'ai regardé un petit peu les textes qui étaient écrits sur le racisme environnemental, ben, tout collait, quoi. C'est-à-dire qu'on avait des terrains spécifiques pour des populations historiquement discriminées, appréhendées quand même par leur race, hein, il faut dire ce qui est, même si juridiquement, on le dit différemment. Des terrains donc choisis par l'État, validés par des préfets, et des terrains majoritairement pollués. Puis, on avait tout l'axe parfait, quoi. Voilà. Concrètement, aujourd'hui, quand vous êtes voyageur dans certains territoires, votre vie, elle se déroulera toute votre vie au pied d'une déchetterie, quoi. Voilà. Il n'y aura pas d'autres horizons. Et si ça a un impact au niveau de la santé, parce que aujourd'hui on n'a pas les preuves matérielles que ça a un impact au niveau de la santé. On sait juste que les gens du voyage ont une espérance de vie de 15 ans inférieure à la moyenne nationale. Mais quand vous dites qu'il y a un lien, peut-être, on vous répond non, il n'y a pas de preuves, à part des cas très précis. Mais sinon, bon, c'est toujours la même chose hein, pour les histoires de scandales environnementaux. C'est toujours très difficile à démontrer ce genre de lien. Donc on n'a pas vraiment de preuves matérielles, mais quand même. On a le droit en tout cas de se poser la question, est-ce que enchaîner ces environnements dégradés nuisent à la santé? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'enchaîner ces environnements dégradés nuisent à la santé mentale, déjà. Parce que c'est pas évident, quand on est jeune, de se dire le seul horizon que j'ai, c'est ça. Ou de se dire ma place, c'est dans la déchetterie. Hein. Voilà. Et je pense que ça... C'est un vrai frein de toutes sortes d'inclusion. En fait, c'est une inégalité qui se rajoute à d'autres inégalités, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est encore largement dans des situations ségrégées et séparées entre les gens du voyage et le reste de la population, malheureusement, en France. Voilà. Première question.
Déjà, comment ça se fait que, comme sur les photos, pour revenir à ces photos à ce lieu-là, comment ça se fait qu'il y ait une aire d'accueil qui soit abandonnée? Et est-ce qu'il y en a beaucoup par rapport à... Est-ce qu'elle compte toujours dans le quota des aires?
Alors, des aires... Alors déjà, il faut revenir au fonctionnement des aires. Les aires ferment toutes l'été, en mois d'août, pour des travaux, pour l'entretien. Donc le mois d'août, on dirait qu'il n'y a plus de voyageurs en France, tout le monde ferme et tout le monde se casse. Et donc on a beaucoup plus de situations d'installation d'illégalité. Voilà. Ce qui se passe, c'est que concrètement, lorsqu'une aire est dégradée, alors elle peut être dégradée par les usagers, hein, ça arrive que des voyageurs cassent des aires, ça arrive, comme n'importe quel équipement public par ailleurs. Elle peut être dégradée pour des questions d'usure, parce que certaines aires accueillent 2000, 3000 personnes par an. Et que forcément, bah, les toilettes s'usent, l'électricité peut se casser, enfin voilà. Et aussi, on a pas mal de cas de dégradation de riverains qui profitent de ces fermetures administratives justement pour prendre le bulldozer et tout casser pendant la nuit. Ce qui fait qu'on a un certain nombre d'aires qui sont fermées. Et une fois qu'elles sont fermées, les mairies disent, promettent, on va les remettre en état. Hein, vous inquiétez pas, 10 ans plus tard, ils sont toujours pas faits parce que c'est très compliqué, les travaux, ça coûte très cher. Voilà, donc ça, c'est vraiment des situations qui sont relevées depuis très longtemps. La Cour des comptes en avait fait un rapport en 2012, et dans son rapport, le spécifiait déjà, ces espèces de stratégies qu'avaient les communes pour fermer administrativement des aires qui étaient en situation soit dégradée, soit... Il y a aussi un truc très paradoxal, c'est que avant, une aire d'accueil était construite avec un bloc unique, c'est-à-dire qu'on avait une maison dans laquelle il y avait tous les toilettes, toutes les douches et la maison du gardien avec les barreaux aux fenêtres et tout le bordel. Et en 2007, on a commencé à construire des aires avec des blocs individuels. Donc les coûts de production, on va dire, de ces équipements ont été un peu plus élevés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans une aire d'accueil, vous avez votre place de parking et puis vous avez un truc de cette taille-là à peu près coulé dans un béton tout entier. Avec un lavabo, voilà. Bon, après, des fois il y a d'autres dispositions, des fois c'est plus ou moins qualitatif selon les lieux. Il y a aussi des communes, hein, il ne faut pas caricaturer, il y a aussi des communes qui essayent de faire les choses bien, quand même, il y en a. Je parle beaucoup du mauvais, mais il y a aussi des élus locaux qui ont des bonnes volontés. Mais voilà, on a donc des aires qui ont été conçues à minima et qui se dégradent très vite et qui font qu'elles se ferment. Et ça, c'est le cas très précis de cette aire à Toulouse, qui a été fermée depuis quelques années, qu'on a promis de rénover, qu'on n'a jamais rénové. Et donc, on a des gens qui s'y installent parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où s'installer et que plutôt que de vivre dans un bidonville sous un pont, bah, là, on a des petites cabanes qui sont ce qu'elles sont, mais qui peuvent abriter des gens dans lesquelles on peut éventuellement se stationner, mettre sa machine à laver, enfin voilà. Et on a souvent ce cas, en fait, aussi de partage de ces espaces d'accueil entre des populations dites gens du voyage, c'est-à-dire françaises, et des populations dites roms. C'est complètement con hein, comme dichotomie, mais malheureusement, c'est la dichotomie qu'on utilise dans le discours public. Roms, sous-entendu roms migrants, venant de Roumanie, d'Europe de l'Est, et qui sont des usagers indirects de ces lieux, ou directs dans le cas où les lieux ont été abandonnés et prennent part position dans ces lieux. Voilà. Donc on a souvent ce type de cas de figure. On a des lieux qui sont fermés depuis très longtemps et qui ne sont pas réouverts. Ta question, est-ce qu'ils comptent toujours dans le schéma départemental ? En règle générale, non. Une fois qu'ils sont fermés, on dit que la mairie, en tout cas l'intercommunalité est en déficit. Mais c'est un motif d'excuse. C'est-à-dire que si ça fait 10 ans que c'est comme ça, quand les intercos disent « Ouais, mais bon, on a une aire qui a été fortement dégradée, on n'a pas les sous, etc. » Voilà, ça fait traîner les choses, quoi. C'est un motif de... Voilà, on repousse à plus tard...
Merci pour cette conférence très intéressante. Je voulais. j'ai plein de questions, mais je vais faire court. Par rapport, déjà, qui sont les. Où, c'est quoi les terrains privés ? Qui sont les personnes qui peuvent accueillir ? Et comment est-ce qu'on peut être en lien avec ces personnes-là ? Aussi, par rapport aux aires d'accueil, est-ce que c'est parce qu'il y a des difficultés de raccordement qu'il n'y en a pas en zone rurale pour ça ? Ou pour d'autres raisons ?
Alors, je vais répondre déjà aux deux premières questions, oui. Puis on fera au fur et à mesure. Les terrains privés, en fait, il n'y en a quasiment pas. La plupart des aires d'accueil sont des terrains publics avec des gestions qui peuvent être privées. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une collectivité qui construit et établit ce terrain. Et ensuite, la gestion qui lui revient peut être déléguée par voie de délégation de services publics ou d'autres contrats publics à des gestionnaires privés. Et là, on a des sociétés qui arrivent et qui disent « on va gérer le gitan, ne vous inquiétez pas ». Donc ça, c'est globalement l'offre qu'il y a en France. Pourquoi on n'a pas d'offre privée ? Parce que simplement, on a des règles d'urbanisme extrêmement strictes sur l'habitation mobile. Typiquement, en fait, quand on a un terrain, aujourd'hui, si moi j'achète un terrain, que je place ma caravane d'habitation dessus, je n'aurai pas le droit de vivre plus de 3 mois dessus. Ce qui fait qu'en fait, dans certaines régions, je suis obligé d'avoir 4 terrains pour pouvoir vivre et jouir pleinement ma propriété. Autrement dit, enfin bon, personne n'a les moyens de s'acheter 4 terrains. Enfin, si, il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment tout petit nombre de personnes. Et ensuite, il faut quand même le préciser, il y a des aires d'accueil privées non officielles. C'est-à-dire que, par exemple, c'est le cas beaucoup dans le Sud-Est. On a une grosse mafia qui est implantée dans le Sud-Est, hein, qui gère pas mal d'urbanisme depuis des années, qui s'est un peu modifiée avec le temps et qui a permis l'émergence de certains de ces terrains, notamment dans les villes à côté de Saint-Tropez, etc., où on a en fait des propriétaires qui ont acheté des grands terrains et qui en ont fait des aires d'accueil privées. Et paradoxalement, ce sont parmi les meilleurs de France. On est vraiment très bien dessus, super bien localisé et tout. Et sont parfois même pas aussi quasiment le même prix en fait qu'une aire d'accueil publique. Et elles sont tolérées, sans jamais qu'on le dise, mais elles sont tolérées par les pouvoirs publics parce que ça leur permet en fait dans leur schéma de ne pas valoriser des situations d'illégalité. Si vous voulez, toutes ces situations-là, vu qu'elles sont dans le terrain, elles ne génèrent pas de troubles à l'ordre public, on ne les intègre pas dans les préparations de schémas, et donc c'est une façon de sous-évaluer le besoin, en fait. Voilà. Et de dire, bah, non, il n'y a pas besoin d'aire d'accueil, regardez, il n'y a personne dans la rue. Voilà. En fait, elles sont dans des terrains qui sont privés et parfaitement pas légaux. Voilà. Donc ça existe, c'est très marginal, mais la plupart des terrains sont des terrains publics. Et la seconde question sur la ruralité, en fait, ce qui se passe, c'est que le seuil de plus de 5000 habitants, donc en fait, aujourd'hui, les aires d'accueil sont construites dans des villes qui font plus de 5000 habitants. Mais sauf que ces villes-là, ces communes-là, représentent moins de 4% des communes françaises. Ça veut dire que sur certains départements, comme le Cantal, typiquement, le Cantal, d'autres départements qui sont ruraux, on a très peu de villes de plus de 5000.
Oui, mais pourquoi cette règle ?
Pourquoi cette règle ? Parce que, alors, jusqu'alors, dans les années 80, on avait une décision du Conseil d'État. C'est ça qui a précipité en fait la loi de Besson numéro 1 en 1990. On avait une décision de Conseil d'État, l'arrêt Conseil d'État, Ville de Lille, etc., qui obligeait qui interdisait aux communes d'interdire leur territoire aux gens du voyage et qui, en gros, revenait à une obligation d'accueil d'au moins 48 heures. Et ça, là, ça a été la panique morale en France. Alors là, comment on va faire ? On était complètement paniqués. Vite, 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 on a mis ce seuil de plus de 5000 pour éviter d'avoir des gens du voyage dans tous les bleds de France légalement, quoi, voilà. Donc ce seuil de plus de 5000, en fait, c'est une sorte de seuil raisonnable, voilà, d'équilibre pour que, à la fois, il y ait quand même des terrains d'accueil pour les gens du voyage, mais pas trop quand même. Voilà. Il faut quand même préciser que la loi Besson, en tout cas comme elle est présentée comme une loi d'équilibre entre les droits et les devoirs. Donc le président de la République, vous savez, qui a dit il n'y a pas très longtemps qu'on a avant d'avoir des droits, on a des devoirs, ce qui est complètement... Enfin, juridiquement, c'est faux. Hein. On a des droits, point, et puis éventuellement des devoirs. Mais donc cette loi est présentée comme un équilibre entre les droits et les devoirs. Et ce seuil fait partie de cet équilibre. Voilà. On le présente comme tel. On dit que c'est une façon de vous intégrer sans non plus que ce soit non viable économiquement. Parce que l'accueil, ça coûte cher. Mmh. Typiquement, sur le dernier décret des aires d'accueil en 2019, il y a quand même des instances de consultation des gens du voyage en France. Il y en a au niveau départemental, où il n'y a jamais de gens du voyage. Parce qu'on a le droit d'avoir des gens du voyage, ou des représentants, ou des gens intéressés par... Et donc, on se retrouve à avoir jamais de gens du voyage. Donc, ce sont des instances qui consultent, soi-disant, les gens du voyage pour construire leurs schémas départementaux. Et au niveau national, on a une instance de consultation nationale. Dans chacune de ces instances, les gens du voyage sont en situation de minorité et les avis sont rendus uniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avis divergent, c'est la majorité qui rend un avis. Donc, on n'entend jamais la voix des gens du voyage. Pour donner un exemple très concret, décembre 2019, on crée un décret sur les nouvelles dispositions dans les aires d'accueil. Donc, quel espace il faut pour la place, est-ce qu'il faut un robinet, est-ce qu'il ne faut pas. Bon, c'est un décret qui est censé améliorer les conditions de vie. D'accord ? Et la Commission nationale consultative des gens du voyage, qui est censée être la représentation de la voix des gens du voyage en France, dit c'est très bien ce décret, mais il ne faut pas que ça s'applique aux aires déjà existantes. Parce que sinon, ça va nous coûter trop cher à rénover. Donc, comme si que les gens du voyage auraient dit ça. Non. C'est Dominique Rimbourg, le représentant, et les 50 élus qui sont dans la commission. Ce n'est pas les trois gens du voyage de la commission qui ont proposé cette solution. Donc on a des solutions, par exemple, là, dans le cas concret, un décret qui est censé améliorer les conditions de vie, mais qui ne s'appliquera jamais à 70% du parc national. Enfin, à terme, puisque aujourd'hui, on a construit 70%, soi-disant, des aires d'accueil. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que le jour où on aura construit toutes les aires d'accueil de plus de 5000 habitants, eh bien, on n'aura jamais plus de 4% des communes françaises qui accueillent. Donc on aura toujours 96% des communes françaises qui sont inaccessibles aux voyageurs.
Mais même si une commune dans le Cantal souhaite accueillir, elle ne peut pas.
Si, okay. Mais il faut les trouver. Il n'y en a pas beaucoup qui souhaitent accueillir. Ouais. Il y a des cas très précis, par exemple. Alors là, par exemple, moi, j'ai un cas à Lyon, en ce moment, une mère qui m'appelle assez souvent. En dessous de Lyon, dans un tout petit bled un peu altermondialiste et tout, donc elle est, tu vois, un peu plus ouverte d'esprit que certaines communes, municipalités. Et donc, elle a une famille de Manouches qui vivent encore avec des caravanes et des chevaux. C'est parmi les derniers, parce que c'est un mode de vie qui existait chez nous, mais que moi, par exemple, même mon grand-père, je sais si mon grand-père, au début de sa vie, vivait comme ça, mais vraiment, ça s'est arrêté, quoi. Aujourd'hui, il y a peut-être moins d'une centaine de familles en France qui perpétuent ces traditions-là. Et donc, ce sont des gens qui vivent depuis 30 ans dans la commune, sur le terrain, et qui, depuis 30 ans, en fait, sont expulsés de terrain en terrain dans ce village qui est tout petit. Donc, ils se retrouvent sur la place du parvis du centre-ville, et puis après, ils sont expulsés là, etc. Donc, elle se bat, en fait, pour avoir un terrain familial, en fait, un terrain que la collectivité achète et leur loue ensuite. Et elle se bat pour ça. Mais elle n'y parvient pas parce que, en fait, là récemment, les agriculteurs de la ville, qui sont pourtant à l'opposé du village, ont créé une forme de collectif et ont dit à la maire que si elle faisait ce village, ils écraseraient les gens du voyage. Enfin, bon, ça allait loin, ils ont menacé de brûler la mairie, enfin, bon, complètement taré. Et donc, voilà, on a des situations comme ça, on a des toutes petites collectivités qui ont la volonté de créer, mais qui se retrouvent confrontées à l'hostilité de leurs administrés. Parfois, ça se passe bien aussi. Hein. Parfois, il y a des trucs où les voyageurs sont très bien intégrés dans le tissu social et urbanistique. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, ils sont très bien intégrés et ça se passe bien. Mais c'est quand même assez marginal. Et généralement, une commune qui n'a pas d'obligation, Voilà, on va pas aller gratter à la porte pour demander une obligation. Hein. Voilà. Parce que c'est aussi, même si on est... Enfin, il faut quand même avoir... là, dans le cas de cette mère, tu vois, il faut avoir des ovaires pour le faire, quoi. Enfin, il faut tenir tête à des gens. Faut pas vouloir se faire réélire aussi. Enfin, faut pas avoir peur. Et elle le fait, mais c'est rare. Enfin, je crois, j'en connais que deux comme ça, quoi. Donc voilà.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça marche ou pas ?
Si, j'entends.
Du coup, pour revenir sur la question des terrains familiaux dont vous avez parlé, est-ce que, alors malgré le fait que ça oblige les personnes à s'ancrer plus ou moins définitivement sur un territoire, est-ce que c'est une solution qui vous paraît meilleure que...
Dans la mesure où on a obligé les gens à s'arrêter, il est légitime qu'aujourd'hui les gens réclament un minimum de dignité pour pouvoir vivre ainsi. Donc il y a des gens qui sont en demande de terrains familiaux, réellement. Hein, c'est pour ça que je ne suis pas hyper... il faut être très nuancé sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui sont légitimement en demande de terrains familiaux. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on ne le perçoit pas, mais une aire d'accueil, on imagine toujours que ce sont des gens accueillis. Mais en fait, ce sont des habitants des villes. La plupart du temps, ce sont des gens qui vivent à l'année ici, qui travaillent dans la ville, qui payent un loyer, etc. Et on ne les considère pas comme des habitants. Et on ne considère pas non plus qu'ils sont de l'habitat indigne. Parce que vu que c'est du mauvais accueil, peut-être, c'est un peu spartiate. Mais non, c'est de l'habitat indigne dans ce cas concret-là. Mais ils n'ont pas accès au DALO, ils n'ont pas accès à tout ça. Donc, évidemment qu'avoir accès à une forme de paix dans la jouissance de son établissement, pas de sa propriété, mais au moins de pouvoir avoir un terrain à soi, c'est une vraie revendication pour beaucoup de voyageurs qui sont bloqués sur les aires aujourd'hui. Et évidemment, c'est une solution. Enfin, c'est une solution. Alors, après, il y a plein de critiques à faire sur la forme et le fond aussi de ces questions-là. Mais effectivement, pour plein de gens, c'est une solution. Et moi, qui par ailleurs peux avoir une vision critique, j'aide des gens dans leur dossier pour accéder à ces terrains. Donc oui, c'est une solution pour des familles, effectivement. Une question devant, je crois. Ou une autre question, je ne sais pas.
Merci. Moi, c'était une question et un petit partage d'expérience. Parce que du coup, j'ai travaillé avec les voyageurs de la région toulousaine. Et justement... en tout cas, sur plutôt la partie Est, il y a une volonté de sédentarisation des familles qui sont là depuis un certain moment. Et donc, des propositions, des enquêtes menées par le département qui n'est pas trop en avance sur l'accueil des gens du voyage.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais.
Non, vraiment pas du tout. Sur les 5 dernières années, il y a à peine 50% des places qui ont été créées en Haute-Garonne. Et du coup, je me demandais si après, justement, un peu la médiatisation de cette question-là, de l'accueil, est-ce qu'il y a eu de la mobilisation des gens du voyage ? Parce que de ceux que j'ai vus, c'était difficile en tout cas.
L'équation, elle est compliquée. Quand vous êtes dans une aire d'accueil, en règle générale, vous êtes en situation de demandeur face à l'administration. À partir du moment où vous vous mettez en position de revendication, que vous parlez dans les médias, le peu de choses que vous aviez disparaît. C'est-à-dire que concrètement, si vous aviez accès à un branchement supplémentaire, on vous accuse d'avoir piraté l'électricité et on vous vire de l'aire d'accueil. Si vous aviez, le gestionnaire qui fermait les yeux parce que les 2 mois d'été, il ne vous virait pas de l'air, il vous laissait dans le fond du terrain et puis ça passait comme ça, là, ça ne se passera plus. On vous met un avis d'expulsion immédiat. En fait, avec toutes les personnes avec qui j'ai initié ou j'ai accompagné sur des mobilisations, j'ai fait Ajex, je l'ai fait... Bon, Hélène Bonchat, c'était déjà constitué, mais voilà, à Petit Quevilly, etc. Toutes ces personnes ont eu des avis d'expulsion, toutes. Donc c'est compliqué pour des gens qui sont en situation bien souvent de précarité, de demandeurs face à l'administration, d'aller s'investir dans ces combats. En fait, leur combat, à eux, c'est de nourrir en priorité leurs enfants et de les chauffer, et de se loger et de ne pas être expulsés, en fait. Donc quand on leur dit mais battez-vous pour la France, ils s'en foutent quoi. Enfin c'est pas qu'ils s'en foutent, mais tu vois ce que je veux dire, c'est il y a des priorités dans la vie quoi. Et donc il y en a qui le font. Là à Nîmes actuellement, j'accompagne une famille qui ont des convictions très profondes et qui pour la forme, pour le principe veulent se battre pour les autres, etc. Mais c'est très marginal. Enfin c'est parce qu'elles sont propriétaires de leur terrain elles ne vivent pas en aire d'accueil, en fait, elles vivent dans leur propre terrain et elles sont aujourd'hui expulsées. C'est une situation un peu... En fait, elles ont depuis 40 ans leur terrain, à la périphérie de la ville, des terrains que personne ne voulait. Et à partir de 2010, des villas avec piscines ont commencé à se construire tout autour. Et le maire a voulu récupérer. Donc, la façon de faire, c'est de classer ces terrains en zone inondable. Donc, subitement, en 2012, ils sont devenus des terrains à fort risque inondable. Et c'est rigolo parce que sur la carte des inondations, il n'y a que leurs 4 terrains. Tous les terrains autour, ce n'est pas inondable. Donc, il y a un puits en dessous, je ne sais pas. Mais... Et donc aujourd'hui, le maire passe à la télé à Nîmes en disant « Mais ces gens, vous savez, pour leur sécurité, il faut vraiment qu'ils partent et tout, machin. » Donc voilà. Donc c'est... En fait, si tu veux, moi, je peux prendre la parole parce qu'aujourd'hui, je suis pas... On n'a pas... Tu vois, je vis dans un appartement, par exemple. Je ne voyage plus. Hein. Et ma mère et mon frère, elles continuent de voyager. Mais à part si la DGSE se met à me suivre et tout, bon, c'est pas le cas, mais... Mais voilà, j'ai pas de. Je peux le faire. Mais les personnes qui sont en situation de galère, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'on a plein de petits groupes qui ont des revendications, mais parfaitement isolés, quoi.
C'était sur ça, pardon, que je voulais rebondir. C'est est-ce que, du coup, après la sortie du bouquin, il y a eu plus de liens qui sont créés, ou en tout cas, là, sur Toulouse, il y a une ou deux assos, mais ils sont. Même pas sur les mêmes accords, du coup, ils ne sont pas forcément regroupés sur toute cette question de droit et de sédentarisation qui est un peu plus voulue. Mais ça veut dire que, concrètement, en fait, moi, en étant travailleuse sociale, c'est hyper compliqué même d'avoir des personnes, à part si nous, on se renseigne, mais encore, ça veut dire qu'on sort de notre champ d'action et nos missions. À part ça, en fait, il n'y a personne, on n'a pas de relais, on n'a pas de personnes ressources. Sur qui s'appuyer, donc ben peut-être non. Toi, tu es la seule personne et encore, professionnelle moi, à la question, ouais, mais il n'y en a pas d'autres.
J'évite ça, parce que le gros problème qu'on a aussi, c'est que vu qu'on considère les gens du voyage comme une sorte de groupe unique, et donc on fait émerger des gens, qui des représentants, en général des hommes, depuis 50 ans, j'ai rien contre eux, hein, mais c'est la vérité, jamais de femmes, c'est le gros souci majeur. On n'a pas de représentation féminine. Moi, comment tu veux... porter un combat sans les femmes, c'est pas possible. C'est comme si que tu t'amputes 50% de la population. C'est... Donc il y a pas de jeunes. Donc faire émerger déjà des paroles, c'est déjà quelque chose de compliqué. Après il y a la question de formation, c'est-à-dire que concrètement quand on se forme aujourd'hui, qu'on est voyageur, qu'on se forme, on est plus ou moins, c'est mon cas, conduit à sortir du voyage. Parce que quand tu as un bac plus 5 en droit, ça te sert... tu ne vas pas t'en servir sur le voyage. Enfin, objectivement, tu pourrais. Mais en général, ta famille, ils t'ont soutenu pendant 5 ans tes études. Tu es l'espoir de toute ta famille. Tu as passé le bac déjà, ils pensaient que tu allais rentrer à la HEC, etc. Enfin, bon. En fait, non, tu finis au BTS de la Courneuve. Mais voilà, pour dire, t'es, tu vois, ils ont investi en toi. Ils veulent que tu deviennes avocat. Ils veulent que... Voilà. Donc, c'est là aussi, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'engagent dans ces voies-là. Et ceux qui s'engagent, c'est parce que leur famille a été sédentarisée. Et puis aussi, il y a une chose, c'est que quand on peut se débarrasser de l'étiquette du voyage, on le fait souvent, parfois volontiers. Moi, aujourd'hui, concrètement, ma situation professionnelle, moi, je travaille dans la culture, en fait. Je suis pas du tout, je travaille pas dans un cabinet d'avocat ou quoi que ce soit. En fait, je travaille juste dans la culture depuis quelques années. Et j'ai décidé de faire ce travail-là et ça a pris de plus en plus de place. Aujourd'hui, concrètement, si demain mon patron me fout à la porte, je ne retrouverai jamais du travail dans la culture. Enfin, on tape William Acker sur Internet, tu ne veux pas du visitant de service énervé dans ton service, tu vois. Donc je sais très bien aussi que professionnellement, ça quand même, c'est aussi difficile de prendre la parole. Donc là, l'année prochaine, par exemple, je vais changer de métier et je vais prendre la tête d'une asso Gens du Voyage. Parce que je suis trop investi pour faire autre chose, en fait. Voilà, il y a tout un contexte qui fait que c'est compliqué. Même, par exemple, tu vois, sur des collectifs, les mettre en lien. On a des collectifs dans le sud, on a des collectifs dans le nord, etc. Mais ne serait-ce que les mettre en lien logistiquement parlant, ça coûte cher de faire de payer des transports, etc. On n'a pas de budget, on n'a pas de ligne budgétaire. Comment tu fais, tu vois, c'est... Donc on a un collectif aujourd'hui qui est vraiment hors norme, qui est à LM Ronchin dans le Nord, collectif de femmes, les femmes, qui s'appelle le collectif des femmes d'LM Ronchin.
qui sont des femmes en fait, qui luttent contre leurs conditions d'accueil, puisqu'elles vivent dans une aire d'accueil située à proximité d'une usine de béton, de l'autoroute, de voies de chemin de fer, d'une concasserie de pierre, de champs qui sont arrosés de pesticides, etc. en permanence. Ils sont tous malades. Ils décèdent tous avant 50 ans de cancer, etc. Et elles luttent depuis 8 ans dans le vide, tu vois. Mais, donc là, par exemple, moi, quand je suis médiatisé, systématiquement, je renvoie le média vers elles. Elles sont en train de se structurer en association. Et on a plein de projets de collaboration, etc., pour faire un peu émerger le truc. Mais c'est pas évident, même sur un sujet comme ça, en fait, de trouver des alliés. Bah, c'est pas simple. Par exemple, à GEC, j'ai accompagné une famille qui était dans une aire d'accueil située à côté de deux carrières, dont une était illégale, avec un site de brûlage de déchets toxiques. Donc, ils cramaient des pneus toute la journée et la fumée allait dans l'air. Et des vibrations toute la journée. Et c'est le point qu'on ne s'en rend pas compte, mais ils ne pouvaient même plus discuter, quoi. Donc, ils se mettaient les boules caisses. Et de 6h à 20h, plus personne ne parlait dans l'air. Tellement c'est juste insupportable. Donc, il y a une pollution lixiviate, c'est des eaux polluées, hein, voilà, qui se jettent dans les cours d'eau à Gex, dans l'Ain. Et en fait, c'est les voyageurs qui ont dénoncé cette pollution lixiviate. Et c'est parce qu'il y a les cours d'eau pollués qui vont ensuite dans la ville et qui concernent donc aussi les autres riverains qu'on a pris en compte la situation de l'air d'accueil. Mais pour créer ce genre de lien, tu vois, c'est pas évident. Surtout quand l'air elle est hyper isolée et que la majorité des habitants de la ville ne savent même pas qu'il y a une aire. Et c'est ça aussi la problématique. C'est que souvent, on ignore même qu'il y a une aire dans sa ville. Donc oui, effectivement, c'est très compliqué.
Juste, ouais, je voulais ajouter, ça renvoie aussi le fait qu'on soit vachement dans des actes très, très terre-à-terre, en fait, et administratifs, et qu'on soit pas mal happé par ça. Ça renvoie à ce que disait William, où quand les gens sont dans leur urgence à eux et leur galère, ils sont pas à même d'être disponibles pour venir débattre de la médiation avec le bailleur social ou d'être bénévole sur une activité pour les jeunes ou des choses comme ça, parce que ouais, on est souvent dans l'urgence.
Et après, il y a des cas particuliers. Hein. Moi, j'ai vu dans les Côtes d'Armor... une action pour l'inclusion de l'emploi des jeunes où en fait on prend tous les jeunes de moins de 16 ans de l'aire d'accueil et on les a pris en stage en fait pour nettoyer leur aire. Donc en fait le truc d'inclusion en fait c'était pour pallier aux déficiences de l'entretien public quoi. Voilà. Donc même tu vois après c'est pas toujours le cas hein. il y a des centres sociaux etc qui accompagnent très bien. Mais il y a même des déficiences de ce point de vue-là, sachant que y a le travail social, effectivement, aussi est considéré... on le sépare aussi dans sa conception. Entre gens du voyage et... Il y a souvent des guichets pour les gens du voyage. On ne va pas aux mêmes endroits quand on est gens du voyage. Ça pose quand même des questions en termes de... Ben, en termes de citoyenneté, en fait. On nous parle d'universalisme au quotidien, mais concrètement, pour l'expérimenter, l'universalisme... Quand on est voyageur, on voit en fait le travail qu'a fait le juriste publiciste en France depuis un siècle, ça a été d'appréhender la race, mais sans jamais en dire le nom. Donc on l'a toujours fait de manière détournée, et pour le voyageur, c'est exactement ça. Donc quand moi on parle d'universalisme, ouais, ton universalisme, et on en est encore loin de l'égalité entre citoyens, quoi. Et ça se ressent dans le travail social, mais dans toutes les sphères en fait, qui concernent les voyageurs, des sphères publiques, on a une séparation comme ça. Et donc, voilà.
Moi, c'est plus pour une question de témoignage. Là, moi, j'habite du côté de Saint-Gaudens. Et là, je travaille pour faire le recensement, en fait. Et le recensement au niveau national a commencé hier. Et dans les deux premiers jours, en fait, on doit recenser sur tout le territoire les habitats mobiles. Et donc, on s'est retrouvés à aller... Alors, c'est pas une aire d'accueil à Saint-Gaudens, puisque c'est un terrain qui a été laissé par la mairie. Et donc, on est allé voir les gens. On était à deux pour dire, faut le recensement. Donc, expliquer pourquoi. Parce que, en fait, l'État donne de l'argent aux communes selon le nombre d'habitants. Donc, plus vous êtes nombreux, plus la commune va avoir d'argent. Mais ce sera pas pour vous, hein. Indirectement. Et on avait toutes les questions derrière de la mairie doit faire une aire d'accueil du lieu qui vraiment c'est le terrain vague quoi, c'est rien d'autre. Et donc on avait toutes les questions en mode est-ce que vous avez des infos de la mairie. Et moi, j'étais là en mode, non, en fait, c'est juste on est embauché pour ça et on vient vous voir juste pour vous compter. Merci, au revoir.
Voilà.
C'était, c'était vraiment pas agréable.
Oui, parce que le 7 janvier, le ministère de l'Intérieur et le ministre du Logement fassent... aussi, c'est aussi le livre, hein. J'en ai conscience de ça. Tu vois, depuis que c'est sorti, ils sont complètement... tu peux pas... mais... je vous ai mis les localisations de toutes les aires, quoi. Tu peux plus me contredire, quoi. Tu vois, donc ils sont obligés de prendre ça en compte. Et Darmanin, il a été obligé de prendre position là-dessus. Bah. Et là, depuis le 7, il demande effectivement à ce qu'on recense tous les gens du voyage. Mais déjà, ça pose éthiquement certaines questions.
Alors, nous, très clairement, c'était annoncé, c'est dans le recensement, systématiquement, c'est sur les deux premières journées. Et c'est aussi un recensement, par exemple, toutes les personnes qui sont sans domicile fixe sur la commune doivent être recensées aussi. Hmm. On recense les aires de camping-car, donc c'était pas spécifiquement. Après,
Ça va rentrer dans le calcul en fait de détermination des schémas départementaux d'accueil et de savoir combien on...
Voilà.
Là, toute la stratégie en fait, c'est que le ministère de l'Intérieur a demandé à ce qu'on relance les schémas et donc qu'on relance certains recensements. Et toute la stratégie pour beaucoup de collectivités, c'est de diminuer au maximum le nombre de cas, voilà, pour faire en sorte qu'ils aient pas de nouvelles aires à construire et être enfin en légalité. Donc voilà, on va attendre comment ça se passe, mais effectivement, même déjà, voilà, éthiquement, c'est quand même particulier de recenser des gens du voyage. Voilà. C'est ce qu'on a fait fin du 19e siècle en France.
Bah,
on continue à le faire 150 ans plus tard, quoi.
En tous les cas, très clairement, les réactions qu'on avait des personnes qu'on allait voir, elles n'étaient pas... Il y avait justement cette question de pourquoi vous voulez nous compter. C'était très clairement la réaction.
Ouais, mais c'est... Mais c'est ça pose une vraie question éthique et une vraie question juridique. Quand il y a eu le confinement, le premier confinement, il y a eu un certain nombre de gens qui ont quitté les stations de ski, qui travaillaient en camion, etc. Et se sont retrouvés bloqués dans des parkings. Et donc les gendarmes les ont virés. Parce qu'ils n'ont pas le droit de stationner dans les parkings pour dormir. Et les gens ont fini par demander à aller dans les aires d'accueil de gens du voyage. Les préfectures leur ont dit « Vous n'êtes pas enregistrés comme gens du voyage. » Donc ça, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est interdit de faire ça. Mais on continue, on sait très bien qu'il y a des pratiques discriminatoires, on compte les gens du voyage, on a des listes dans certaines préfectures, et voilà. Moi, ça m'a quand même effaré de voir ce genre de truc. À Tarbes, il n'y a pas très longtemps, il y a un monsieur sur un aire d'accueil, il est handicapé, c'est un rescapé de guerre, donc il a pris une balle dans la tête, donc il est en mobilité réduite, il a demandé un toilette adapté. On lui a demandé, les gestionnaires lui ont dit, ils lui ont écrit un courrier, donc ils le baladent depuis des mois pour ne pas faire le toilette. Et ils lui ont écrit le courrier en disant, mais pour qu'on vous les construise, il faut que vous prouviez que vous êtes zigane. tu te rends compte du truc? Enfin, et j'ai publié ça sur Twitter, évidemment, et le lundi, il avait ses toilettes. Parce que l'agglomération de Tarbes était complètement choquée, machin, non. Voilà, ça t'en est pas. Mais ces pratiques-là, en fait, ça pose quand même question de recenser les gens du voyage. Enfin, concrètement, OK, on a besoin d'évaluer les besoins, mais d'aller comme ça... Voilà. Et il faut voir aussi ce que ça va donner dans le futur. Moi, pour moi, ce recensement, en fait, ces recensements, ils vont conduire à ce qu'on abaisse les seuils de besoin d'air. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que concrètement, les villes de plus de 5000 ont l'obligation, mais que si... le comptage est inférieur à, eh bien, on leur supprime l'obligation. Donc, c'est un des gros objectifs, c'est ça, et aussi toutes les dérogations qui vont bien pour éviter d'accueillir.
Après, oui, c'était dans le cadre du recensement sur toute la ville aussi. Mais c'est très clairement les deux premiers jours, on nous demande de faire les habitats mobiles et les sans-domicile fixe pour être sûr qu'ils ne seront pas comptés dans les 6 semaines qui suivent dans un autre endroit.
Voilà, pour être sûr de ne pas avoir trop de gens dans le recensement.
Ouais.
Ah non, en la matière, chaque pays en Europe a son système. Je disais en Allemagne, en Italie, etc., on a des équivalents de ce qu'on a des aires d'accueil, mais alors c'est dans un état, c'est pire qu'en France. Déjà, les gens ont été sédentarisés de force. Déjà, ils ont été exterminés en Allemagne, donc il n'y en a quasiment plus, pour faire concrètement, pour être très concret. En Italie, ils ont été sédentarisés de force sous le fascisme, donc on a quasiment plus de voyageurs. En Suisse, ils ont un statut de minorité nationale, comme en Allemagne d'ailleurs. Donc ils sont protégés par un certain nombre de droits, mais en gros, en Suisse, il n'y a que 30 Suisses. Et il faut encore rappeler que jusque dans les années 80-90, on stérilisait les femmes. Voilà. la Projuventude, donc l'équivalent de la grosse association caritative suisse stériliser les femmes yéniches. En Belgique, on a des aires d'accueil, mais elles sont fermées tout l'hiver. Donc les gens disparaissent l'hiver, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc très peu d'aires d'accueil aussi. En Espagne, on n'en a pas parce qu'on a sédentarisé l'ensemble des gitans. Et en Grande-Bretagne, en Irlande, etc., c'est à peu près les mêmes situations qu'en France. Sauf qu'en Grande-Bretagne, la différence, c'est que les gens peuvent s'auto-organiser et avoir leur propre terrain. Mais ça, c'est pas non plus beaucoup mieux. Voilà. Bah, aucun. En fait, si, le pays, objectivement, le pays qui a le plus d'infrastructures, c'est la France. Quand même, on est fort quand même. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation et de représenter une partie de la population, disons, qu'on voit, qu'on croise, avec qui on vit, mais qu'on n'entend pas tant. Donc déjà, c'est chouette. J'avais une question. Je ne sais pas si tu as parlé du nom. Parce que... Enfin, moi, les gens que je connais qui sont voyageurs, ils s'appellent voyageurs. Mais du coup, j'avais vu dans des tweets que ce n'est pas toujours évident, la question du nom. Donc, il y avait une question comme ça. Une question sur le coût que ça induit. Parce que pour moi, viabiliser un terrain, et surtout si on le loue, ça ne doit pas coûter une fortune. Donc, comment ça peut être une excuse pour ne pas en faire. Une question sur le travail, parce qu'effectivement... avec l'urbanisation, bah, du coup forcée avec cette histoire des 5000 habitants. Et puis en plus même, il y a quand même de moins en moins de paysans, etc. Comment est-ce que les gens travaillent? Et enfin, c'est après j'arrête, c'est quoi faire pour aider ce genre de cause? Parce que pour des gens qui ne sont pas voyageurs, c'est pas tellement à nous de prendre ce combat. En même temps, si personne ne fait rien et qu'aucun aucun militant se mobilise, ben, il va rien se passer, parce que j'entends aussi que ces gens-là, ils ont déjà à lutter pour vivre. Donc, voilà.
Je vais essayer d'être très, très synthétique et très rapide, ça va être dur, mais... Sur la dernière question, que faire pour aider? Alors là, la priorité, c'est de permettre aux voyageurs d'accéder, lorsqu'ils en ont besoin, à des espaces d'expression publique. C'est la grosse difficulté. Donc, il y a des associations aujourd'hui qui font quand même ça. Hein. Il y a quand même des militants aussi, voyageurs. Il y en a peut-être une petite quarantaine en France, vraiment, qui sont investis au quotidien. Donc déjà, ceux-là, valoriser leur parole, c'est toujours bien. Il y a des besoins d'aller voir les gens dans les airs, parce que quand on est une asso écologiste, quand on est une asso féministe, quand on est une asso antiraciste, etc., ben, on a des accointances avec les problématiques qu'on retrouve sur les airs. Donc il y a aussi des parcours qui se croisent, et voilà, les choses peuvent se faire sur le terrain directement. Hein, voilà, donc à mon sens, moi, il faut travailler le territoire, comme on dit, pour faire ça. Après, sur la question, la première question, c'était quoi? Oula, personne n'a jamais réussi à créer un vrai lexique qui satisfasse tout le monde. Donc, je présente ma pratique, en fait. Voilà. Alors, on a une partie de sciences humaines où on va parler en France de Zygane, mais par exemple, dans le reste de l'Europe, vu que c'était un statut racial il y a encore pas très longtemps, on refuse d'utiliser ce terme. Zygane, il y a plusieurs origines étymologiques. En tout cas, ce n'est pas un terme qui vient de nous. Ce n'est pas nous qui nous le sommes donné. C'est l'extérieur qui nous l'a donné. Et une des étymologies, c'est le statut de Tziganie qui existait dans les anciens royaumes de Roumanie pendant l'esclavage, et qui était en fait un statut de... Les Tziganie étaient tous sous le statut de la Robie, esclave. Et si tous les Roms étaient... si tous les Tziganis, les esclaves, n'étaient pas Roms, tous les Roms étaient esclaves. Donc il y a eu quand même une superposition comme ça dans la sémantique. Aujourd'hui, on a le terme Rom qui est un terme, on va dire, politique. Dans les années 70, il y a eu un mouvement qui a revendiqué ce terme-là. Le terme Tzigane qui est rejeté par toute une partie, qui est utilisée encore en France par les sciences humaines, on ne sait pas trop pourquoi. On a les termes Manouche, Yéniche, Manouche, Sinté, Gitan, Calais, Rome, Lovara, Rome. Tout ça, ce sont des branches, sous-branches, etc. Mais tout ça font partie des peuples romani. pour faire schématique. Et les peuples romanis ont une origine commune dans le nord de l'Inde, une origine commune qu'on détermine à partir de l'acquaintance linguistique, donc dans leur parler, dans les différents dialectes romanesques. Et ensuite, il y a des peuples qui ne sont pas d'origine romanie, qui sont des peuples itinérants, comme les Yéniches, qui n'ont pas d'origine commune avec les peuples romanis, qui viennent de Suisse et d'Allemagne. On connaît assez mal leur truc. Et il y a des peuples autochtones, notamment en Irlande, qui sont les Irish Travelers, qui, eux, sont des peuples autochtones qui n'ont rien à voir avec les peuples romanis. Mais il y a aussi des Romani Travelers qui sont d'origine romanie en Irlande. Donc, c'est jamais simple, en fait. Voilà, et le terme « gens du voyage » est un terme administratif. Le terme « nomade » est un statut de 1912 à 1969. Et voilà, je pense qu'on a déjà fait... Après, tout est détaillé dans le bouquin. Voilà. C'est très long et très casse-gueule. Deux et troisième, on arrête. C'est quoi les autres questions? Je m'en souviens plus.
C'était le coût pour
du maire. Ouais. Alors le coût des airs, contrairement à ce que les pouvoirs publics annoncent, eh bien il y a des aides de l'État de 50, 70%, il y a des trucs assez compliqués. Les aides concrètement ont baissé ces dernières années. Aujourd'hui, ça marche par appel à projet, genre Startup Nation. Donc tu as envie de rénover ton air, tu lances ton appel à projet et puis si tu es fort, tu gagnes. Voilà. Mais concrètement, rénover une air, ça coûte pas si cher que ça. Et l'argument fallacieux de dire ça coûte très cher d'accueillir les gens du voyage, il a été relevé par la Cour des comptes dès 2012 en disant non, c'est pas si cher que ça de mettre des prises électriques et de l'eau, donc il faut arrêter. Voilà. Donc le coût, en fait, c'est toujours pareil. Si on considère l'accueil comme un service public, le coût est acceptable. Si on le considère comme une obligation qui pèse sur le contribuable, le coût n'est plus acceptable. Voilà. Donc c'est toujours une question de point de vue. Et sur la dernière question du travail, je disais qu'en fait, les conditions d'accueil ont largement modifié nos conditions de travail. Et qu'aujourd'hui, eh bien, les familles se sédentarisent et qu'on pousse les enfants à aller plutôt vers des études. Et, voilà. Mais concrètement, il y a une forte reproduction sociale chez nous. Par exemple, moi, mon frère fait le métier de mon père, qui fait le métier de son père, qui fait le métier de son père. Voilà. Et on a aussi une particularité chez pas mal de familles où les femmes ne travaillent pas. Donc ça veut dire qu'il y a un patriarcat qui est très fort aussi dans certaines de nos communautés, et donc voilà, il reste encore pas mal de choses à faire évoluer. Voilà. J'espère, je suis désolé, il y a plein de questions et tout, mais je crois qu'il y a l'équipe de la librairie qui a des horaires. Bon, merci en tout cas, c'était super. Merci beaucoup.
Sur livre dormir.